Bonjour, sœur Véronique Marron.
Bonjour à vous.
9 ans, vous avez été présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France, pendant 9 ans. 2 mandats démarrés en novembre 2016, c'est-à-dire 4 ans avant la SIAZ. Et bien sûr, cela a son importance puisque la lutte contre les abus a marqué votre présidence, votre travail et sans doute votre vie. Mais la lutte contre les abus n'a pas été votre seule mission. Il faut dire également que vous avez été à la tête de la COREF à une époque où il a bien fallu considérer le vieillissement des congrégations religieuses. Vous avez mené des chantiers lourds. Alors pardon de cette question qui va peut-être vous sembler un petit peu brutale pour commencer. Comment allez-vous ? Comment va la religieuse dominicaine que vous êtes, la théologienne, la femme d'église, après ces 9 années de travail et peut-être aussi un peu de combat ?
Tout cela, comment je vais ? Mais bon, foncièrement, je pense que je vais bien. C'est-à-dire que, vous savez, il a fallu, je ne sais pas si c'est traversé, car je ne sais pas si nous avons traversé, mais il a fallu affronter, bon, particulièrement, comme vous le disiez, la crise des abus et des violences sexuelles. C'est plus qu'une crise, d'ailleurs, hein, ce désastre. Et puis, évidemment, essayer le mieux possible de faire vivre la COREF. Mais j'ai rencontré des gens magnifiques, vraiment. J'ai rencontré des gens formidables partout, dans les responsables d'instituts, des gens donnés, des gens courageux, des gens qui font face à la réalité, des hommes comme des femmes, y compris parfois âgés, parfois jeunes et qui prennent en charge ce que les prédécesseurs n'ont pas fait. Et c'est loin d'être facile, vraiment. Et j'ai rencontré plein de gens formidables, en dehors, évidemment, de la COREF, mais qui sont venus en soutien, à commencer par les membres de la SIAZ, par les membres de la commission reconnaissance et réparation, et beaucoup d'autres qui nous ont aidés durant toutes ces années. Donc, à vrai dire, je le disais aux membres de la COREF hier, j'ai d'abord beaucoup de gratitude, franchement. Le réel, il est ce qu'il est, donc il faut y faire face. Ça n'empêche pas, au contraire peut-être, d'être d'autant plus attentive pour moi aux femmes et aux hommes que j'y rencontre dans ce réel. Et justement, de pouvoir réaliser, j'allais vous dire presque admirer, contempler, qu'il y a vraiment des gens magnifiques, ce qui n'empêche pas de regarder tout ce qui ne va pas.
En novembre 2016, quand vous avez démarré votre premier mandat, novembre 2016, à cette époque-là, on est encore assez timide sur la lutte contre les abus. C'est le début des cellules d'écoute. Je crois que dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, si je ne dis pas de bêtises, c'est le début de la première cellule d'écoute. On est vraiment un peu aux prémices de cette lutte contre les abus. Est-ce que vous, en novembre 2016, quand vous prenez cette présidence de la COREF, vous vous attendez à ça ? Vous vous êtes préparé ?
Pas du tout. Pas du tout. Moi, quand j'ai pris la présidence de la COREF, le président précédent, Jean-Pierre Longeat, qui est un moine, c'était lui le président de l'IGUG à côté de Poitiers, me dit « Tu sais, Véronique, il ne faut pas que tu t'inquiètes, c'est un petit tiers-temps. » La présidence de la COREF. Je dis « Bon. » Parce que j'étais provinciale, c'est-à-dire responsable de ma congrégation pour la France.
Vous êtes religieuse dominicaine, hein, voilà. C'est pas rien,
Je l'étais depuis un an, donc vraiment tout me tombait dessus. Il fallait quand même que je visite mes communautés. Je me dis comment je vais faire. Il me dit, mais non, mais t'inquiète pas, c'est un petit tiers-temps. Alors, nous étions déjà quand même dans l'affaire Prénat, mais elle n'avait pas d'incidence à ce moment-là sur les religieuses. Donc vraiment, moi, l'assemblée où j'ai été élue, je pense pas qu'une seule fois il ait été question d'abus. Vraiment.
Avec du recul aujourd'hui, vous ne vous dites pas c'était quand même dingue qu'en 2016 on n'était pas capable à ce moment-là d'en parler.
C'était dingue. On n'était pas capable parce que je pense que la conscience de l'extrême gravité, du scandale que ça représente, n'était pas encore là. Et pour moi, c'est d'autant plus a posteriori, ça a un côté terrifiant. Que je me suis occupée de mineurs en danger, que j'ai connu nombre de situations d'inceste, de vies ravagées, y compris de jeunes de 18 ans, 20 ans. Au moins un sur deux avait été victime d'inceste, au minimum, sans doute plus. Et personne de nous, au ministère de la Justice, à la protection judiciaire de la jeunesse, trouvait que tout ça, c'était vaguement normal et banal, hein, quand j'étais en poste, qui commence à remonter loin maintenant. Donc, si vous voulez, c'était... Aujourd'hui, je me dis, mais c'est quand même dingue que je suis élue en novembre. En janvier, je reçois des courriers de victimes. Il s'est pas passé 3 mois.
Et ça, c'était l'élément déclencheur?
Oui, pour moi, oui, parce que je reçois des premiers courriers concernant un religieux que, évidemment, je ne connaissais pas, d'une congrégation dont je ne connaissais rien. Et les personnes, je ne les connaissais pas. Je propose de recevoir toutes ces personnes, évidemment. Hein. Bon, mais c'était une situation. Et puis, d'autres courriers arrivent. Des gens m'écrivent, qui me connaissaient ou qui ne me connaissaient pas du tout. Hein. J'avais une sensibilité à ces sujets-là. Donc,
C'est pour ça qu'ils vous écrivaient? Et aussi peut-être parce que vous êtes une femme et que,
sans doute, étant à parce moi, que je suis une femme, je suis convaincue que ça a joué, parce qu'il n'y a pas de transposition d'image, forcément. Hein. Oui. Bon. Ça, sûrement. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, mais on ne va jamais y arriver. Enfin, c'est-à-dire, on ne va pas y arriver avec nos petits bras. On ne va pas y arriver avec notre bonne volonté.
Donc ça veut dire, très vite, vous vous rendez compte de l'ampleur que, c'est,
ah
que,
oui.
que ça
alors,
a.
Pas du tout, comme ce qu'on a découvert avec le rapport de la SIAZ. Hein. Mais en tout cas, qu'on n'allait pas pouvoir faire au cas par cas.
Ouais.
Que ça n'allait pas être possible. Je me rappelle, après même pas un an après avoir été élue, j'ai proposé une journée de formation à des supérieurs majeurs, donc à des responsables d'instituts en interne, donc, où j'avais fait venir une psy, un juriste, mais c'est tout. Mmh. Vous voyez, donc c'était quand même encore un petit format. Mais voyant tout cela monter, moi j'ai essayé de faire un groupe de travail avec des experts.
Et à ce moment-là, vos interlocuteurs, ils vous disent quoi? Mais non, c'est de la folie, vous exagérez, on n'en est pas là.
Non.
Ou ils disent enfin, on rentre dans le.
Ils me disent ni l'un ni l'autre, hein, grosso modo. C'est-à-dire que ils m'accompagnent quoi plus. C'est-à-dire que personne me disait c'est de la folie, vraiment personne. Personne me disait mais tant quoi on s'embarque, tu peux pas aller par là, on va être débordé, pas du tout. Vraiment personne ne m'a dit ça à la Coref, vraiment personne. Du côté des experts, ils me disaient plutôt écoute, bravo. Il faut y aller, il faut prendre ça en compte. Parce que aussi, nous étions dans l'époque MeToo, donc c'est aussi des mouvements de société. Mmh. Et en fin de compte, c'est la conjonction qui nous a aidés.
Et oui, donc il faut pas mener cette lutte parce que c'est l'ère du temps et que ça va dans l'ère de MeToo, etc. Il fallait le faire pour des raisons fondamentales, en fait.
C'est-à-dire qu'il fallait le faire par obligation éthique. C'est-à-dire à partir du moment où vous rencontrez des femmes et des hommes dont les vies ont été pour certaines dévastées, pour les autres bouleversées au moins, pour certaines même fracassées parce qu'elles ont subi, qui est parfaitement ignoble et qui est un scandale humain, spirituel, puisque tous ces agresseurs se sont servis de la Bible, se sont servis de l'Évangile, se sont servis de leur position d'homme, entre guillemets, sacré. Donc, vous ne pouvez pas dire, mais je vais les écouter gentiment et ça va passer. Ce n'est pas possible. Enfin, y a une sorte de devoir impérieux de justice, de comment faire justice, qui est fondamental au regard, évidemment, des exigences éthiques et au regard de l'Évangile, plus encore. Donc, comment vous dire, moi, mon indignation, elle est née dans ces moments-là. J'étais déjà indignée avant, donc sans doute ça m'a aidée. Mais en tout cas, sur ce sujet-là, elle est née là et elle est toujours présente. C'est-à-dire que je ne me remettrai jamais de cette indignation et je ne cherche pas à m'en remettre.
Mmh. Quand vous avez créé la commission...
indépendante.
La commission indépendante, l'objectif, c'était quoi? C'était de pouvoir construire une justice qui répare?
Alors non. Le premier objectif, c'était de voir ce qu'il en était. C'était d'oser regarder.
Un état des lieux ?
Un état des lieux, c'est-à-dire c'était de comprendre ce qui se passait. Puisque quand même, vous pouvez recevoir des victimes, vous avez quand même toujours une vision très partielle. Donc c'était de dire, tout d'abord, il faut qu'on comprenne l'ampleur, et qu'on comprenne pas seulement l'ampleur, qu'on comprenne pourquoi.
Pourquoi c'est devenu systémique ?
Pourquoi c'est... Alors, je ne suis pas sûre qu'on nommait cela déjà systémique. Je pense qu'on le doit à la SIAZ. En tout cas, on doit la dénomination systémique, cette compréhension-là, à la SIAZ. On savait, en tout cas, moi et d'autres, ou d'autres et moi, en écoutant les victimes, qu'il y avait eu des complicités. Ça, c'est sûr. Il suffit d'écouter une victime pour savoir qu'il y a des complicités. Parce que la personne vous raconte qu'elle a parlé à un tel qui n'a rien fait. Bon, ses parents, si elle était un enfant, qui évidemment lui a dit « tais-toi, on ne fait pas de mal au prêtre », la plupart du temps, mais elle a souvent parlé à un prêtre ou à quelqu'un qui n'en a rien fait, à un supérieur religieux. Donc, vous voyez bien qu'il y a des complicités. De là à nommer ça absolument systémique, il faut quand même un peu prendre de champ.
Et ça, c'est la science qui nous a aidé à le faire.
Donc, à vrai dire, le travail de la science, c'était surtout ça. C'était plus qu'un état des lieux. C'était comprendre, y avoir une vision en profondeur. Et comme nous avons demandé... l'archevêque de Marseille de l'époque, qui était président de la conférence des évêques, Georges Pontier et moi-même, qu'en même temps ce rapport nous fasse des recommandations, c'est les recommandations qui après nous ont aidés à construire la question des commissions de reconnaissance et de réparation.
Une justice qui répare, c'est quoi au fond ? Comment on répare l'écoute, la prise en compte, ça ne suffit pas ?
Alors d'abord, on répare en sachant qu'on ne répare pas. C'est ça la première chose. Enfin, vous ne pouvez pas réparer le malheur qui a été infligé à des personnes. Vous ne pouvez pas parce que pour le réparer, il faudrait revenir en arrière et ça, personne de nous ne le peut, bien sûr. Hein. Donc, il faut quand même avoir cette conscience qu'il y a de l'irréparable. Le mal qui a été commis, il a été commis. Plus personne ne peut l'effacer. Personne au monde ne peut l'effacer. Ce que vous pouvez faire, tenter de faire, c'est restaurer quelque chose. Restaurer quelque chose... de l'estime de la personne elle-même, restaurer bien sûr quelque chose de la vérité qui lui est due, restaurer quelque chose de la capacité à comprendre ce qu'elle a subi et pourquoi ce qu'elle a subi est si violent, si injuste, et qu'elle est bien une victime, et qu'elle n'est pas une sorte de co-coupable, comme beaucoup de victimes, y compris des enfants victimes, le pensent, qu'elles ont provoqué, que... Donc, c'est tout cela... restaurer ou tenter de réparer quelque chose.
Et les victimes attendent vraiment ça de l'Église, c'est-à-dire qu'elles frappent à la porte de l'Église avec cette espérance qu'elles vont pouvoir trouver cette justice, en tous les cas cet acte de réparation, c'est-à-dire qu'elles frappent à la porte de l'institution qui les a cassées, qui les a blessées, qui les a détruites.
Alors ça, c'est une très bonne question parce que pour beaucoup de victimes, c'est impossible, justement.
Oui.
Parce qu'on ne va pas chez son agresseur ou dans la maison de son agresseur pour espérer un peu de justice. Donc, d'où l'importance que nos commissions soient des commissions indépendantes. Que ce soit celles créées par les évêques, l'INIR, celles créées par la Conférence des religieuses, la CRR, qui, bien sûr, sont financées par nous, qui les financerait. Ce n'est pas l'État qui va financer nos commissions. Mais elles sont exactement dans la même situation que la CIAS. Hein. C'est-à-dire que nous les finançons, mais elles sont parfaitement indépendantes dans leur travail. Et c'est fondamental pour créer le lien de confiance avec les victimes. Alors, pourquoi, moi, les victimes sont venues me voir, alors que, par définition, j'ai découvert à cette occasion que je représentais l'Église. À vrai dire, c'est elles qui m'ont renvoyé cela. Hein. Comme vous le disiez, sans doute parce que je suis une femme, peut-être parce que... Je sais peut-être un tout petit peu, je n'en sais rien, elles peuvent le dire, mais écoutez, être, je ne sais pas comment dire, en co-humanité avec les personnes, que je ne suis pas là pour défendre l'institution en aucun cas, mais qu'en effet, en étant membre de cette institution, à une sorte de responsabilité symbolique, qui n'a rien d'hiérarchique, la COREF, mais moins symbolique, que c'est comme si, j'ai bien vu que pour beaucoup de victimes, elles venaient en quelque sorte, en venant me voir, elles venaient dire à l'Église, là où précédemment elles ont essayé de le dire à l'Église et où l'Église a refusé d'ouvrir la porte, que ce soit un évêque, un responsable religieux, un prêtre qui n'a jamais voulu ou les recevoir, qui n'a même pas répondu. Donc, je pense que c'est ces deux phénomènes. Et moi, je vois un certain nombre de personnes qui ont besoin de venir chez moi avant de pouvoir aller dans les commissions, comme s'il y avait la nécessité de déposer symboliquement dans un lieu d'Église. Avant d'entamer le processus. Puis pour d'autres, bien sûr, elles vont dans les commissions directement, heureusement.
Vous n'avez jamais été tentée par l'idée de protéger l'institution. Dire, bon,
ça,
il faut que je le gère bien, mais que je le gère dans mon coin pour protéger l'institution.
Ah non, jamais. Ah non. Ah non, parce que c'est totalement contraire à toute mon éthique. Enfin, pour aucune institution. Enfin, c'est-à-dire que la protection de l'institution contre la vie d'une seule personne, ça n'est pas justifiable éthiquement. Donc, j'aurais fait la même chose dans une vie précédente. Hein, j'avais dû défendre une victime dans une université où je travaillais, qui avait été victime d'un cadre supérieur de cette université. Je ne me suis pas dit qu'il faut défendre la réputation de cette université. En aucun cas. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez... Enfin, Je ne sais pas si vous ne pouvez pas, mais moi, je ne peux pas réagir comme ça. Quoi.
Qu'est-ce qui vous a... Je ne sais pas combien de victimes vous avez écoutées, entendues, accueillies. Peut-être que vous le savez.
Je ne sais pas exactement, mais je suppose beaucoup plus que 200.
Comment vous avez fait pour... après, nous allons marquer une pause, mais comment vous avez fait pour tenir, en fait, pour pouvoir les entendre, pour pouvoir les écouter, pour pouvoir avoir un cœur toujours attentif à ces récits d'horreur?
Je pense que, en tout cas, la force pour moi, c'est que je ne me pose pas cette question. C'est-à-dire, je ne me dis pas comment je fais pour tenir. Je suis, j'ose pas dire une disciple, parce que ça serait très prétentieux, mais en tout cas, une lectrice d'Emmanuel Lévinas, qui est un philosophe qui écrit beaucoup sur la question du visage. Combien nous sommes assignés, c'est-à-dire nous sommes les obligés du visage de l'autre, nous sommes les obligés de la mort de l'autre. Et alors, je ne vais pas vous faire un baratin philosophique, je ne sais pas si ça vient de ma fréquentation d'Emmanuel Lévinas ou si c'est plutôt Emmanuel Lévinas rejoint ce que je vis. Mais en tout cas, c'est quelque chose de ça. C'est-à-dire, je ne me dis pas, mais comment je fais pour tenir? Après, il se trouve que, enfin, il se trouve, façon de parler, que par chance, justement, je suis religieuse, que je vis dans une communauté qui, je l'espère, se porte bien, ou en tout cas pas mal. Et donc, la vie ordinaire y est une vie qui équilibre. La prière ensemble, la vie fraternelle ensemble, ça ne vous met pas du tout à distance de ce que vous entendez et vivez intérieurement, hein, et la façon dont ça vous entame à l'intérieur. Mais comment dire, l'ordinaire est quand même aussi ce qui nous tient, quoi, ou ce qui nous contient. Donc je pense que ça m'a aidé d'être dans cette situation, d'avoir une vie commune, durant toutes ces années et d'être autant que faire se peut avec mes sœurs pour une vie tout à fait simple et quotidienne.
On marque une pause, sœur Véronique Magron, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cet entretien. Nous sommes toujours en compagnie de sœur Véronique Magron qui achève ses 9 années à la tête de la présidence de la COREF. Sœur Véronique Magron, on a beaucoup parlé du travail que vous avez mené pour lutter contre les abus. Ça a été un petit peu le travail qui a marqué vos 2 mandats à la présidence de la COREF. Mais il n'y a pas eu que ça. On va le voir dans un instant que vous avez eu d'autres choses aussi, d'autres chantiers à mener. Quand même une dernière question au sujet de la lutte contre les abus. S'agissant des congrégations religieuses, est-ce que les religieux et les religieuses ont compris assez vite ce travail, alors le travail de la SIAZ, mais globalement cette lutte contre les abus, est-ce qu'au sein des congrégations religieuses, les personnes n'ont pas été un peu protégées au début de tout cela en se disant bah, peut-être que ce n'est pas notre affaire?
Au début, sûrement que si, bien sûr. Hein. Vous savez, on pense toujours que ça va mal dans la maison du voisin. Hein. Donc, je pense que pour un certain nombre, c'est dur. Ça a été dur, sans doute que pour certains, ça le reste. Enfin, comment vous dire, c'est d'une telle violence intime. Je pense à beaucoup de congrégations masculines qui ont découvert, en tout cas aujourd'hui, qu'elles ont abrité ou qu'elles abritent ou abritaient des prédateurs sexuels. Enfin, on parle de leurs frères, d'hommes avec lesquels d'autres frères ont vécu. On ne parle pas de gens loin. Donc tout ça, c'est des chocs psychiques. Et donc, psychiques, spirituels. Donc il faut entendre ça. C'est-à-dire, si on veut les embarquer dans le combat, il faut entendre aussi que ça peut être légitimement difficile, parce qu'on n'est pas en train de parler de gens ailleurs qu'il faudrait combattre.
Donc vous avez on parle de gens de sa maison. Vous avez eu à déployer du coup des solutions pour être attentif aussi aux frères et sœurs des prédateurs.
Autant que faire se peut, c'est-à-dire que ce qu'on a essayé de faire, c'est beaucoup de formation, parce que ça aide quand même, hein, Donc la COREF a organisé de nombreuses formations pour les responsables d'instituts, pour les formateurs, à la fois évidemment sur les violences sexuelles, mais aussi sur les phénomènes d'emprise, d'abus spirituels, d'abus de pouvoir, bon... Voilà, tout cela.
Tout ça, c'était tabou avant, ou on pensait même pas que c'était nécessaire d'en parler.
Non, bah oui, non, il y avait rien. Enfin, à peu de choses près, il y avait rien. Et puis, on avait instauré une sorte de cellule de crise pour que les supérieurs majeurs en difficulté, les responsables d'instituts en difficulté, parce que il y a quelqu'un, un de leurs frères qui est mis en cause, aient une sorte de cellule de crise qu'elle puisse appeler pour avoir un juriste, pour avoir un psy, pour avoir des conseils, surtout pas pour cacher quoi que ce soit et minimiser. Au contraire, pour faire face. Mais on ne fait pas face tout seul comme ça, enfin, à des choses que 5 ans, 6 ans avant, vous étiez à des années-lumière d'imaginer. Mmh. Donc c'est vrai que, enfin, comment vous dire, enfin, on ne transforme pas les gens de force. On transforme les gens en les embarquant avec nous. Mmh. Donc, et moi, ce que j'ai admiré quand même de toutes nos assemblées générales, c'est que nous avons pris des décisions difficiles. 6 mois avant le rapport de la CIAS, nous avons voté une résolution comme quoi nous reconnaissions la responsabilité institutionnelle de la vie religieuse. Et je peux vous dire que ça a été un débat magnifique, mais extrêmement grave. Pas du tout là, parce que les hommes n'auraient pas voulu reconnaître, mais parce que les sœurs, dont moi, qu'est-ce qu'on a fait durant ces années ? On a découvert, en les écoutant, des sœurs de nos congrégations victimes. Et donc, quand vous avez découvert des sœurs victimes, est-ce que vous pouvez vraiment reconnaître votre responsabilité institutionnelle ? Mais vous n'allez pas dire que vos sœurs qui ont été victimes ont une responsabilité. Enfin, ça nous posait des vrais cas de conscience. Et nous l'avons voté très largement. On avait voté, bien sûr, la CIAS, le financement de la CIAS, la CRR. Donc, franchement, je trouve que tout n'est vraiment pas fait. Et maintenant...
Qu'est-ce qu'il reste à faire, justement ?
Il reste à faire de continuer. Et ça, c'est difficile. Commencer, peut-être il faut du courage pour commencer. Comme dit un autre philosophe de mes amis, si j'ose dire, qui est Vladimir Yankelevitch, hein, le courage, c'est le courage des commencements. Oui, mais il faut du courage pour continuer. Il faut du courage pour ne rien lâcher. Et pour moi... Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ça.
Parce que ça pourrait recommencer. Vous pensez que si on manque de formation, d'attention...
Mais bien sûr. Parce que cette violence est tellement intime. La violence qui est faite par la découverte. Je ne parle pas de la violence que subissent les victimes, bien sûr. Celle-ci est très intime et totale. Mais la violence de découvrir dans sa propre maison, de découvrir des victimes, a fortiori, je pense, de découvrir des agresseurs, est telle qu'il y a toujours une tentation de dire « Non, j'efface. Oui. » Mais comme on le voit dans les affaires d'inceste, rappelez-vous quand même le rapport d'Edouard Durand. Ce rapport est extrêmement précis et dur, quand même. 160 000 enfants par an, 160 000 mineurs par an, dont l'immense majorité est victime d'inceste. On a ouvert une politique publique ? Rien. Je ne crois pas que c'est parce qu'on est complètement bête. C'est parce que c'est tellement violent que c'est comme si on l'oubliait dans le moment où on l'apprend. C'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher.
Donc ça, c'est de l'ordre du traumatisme. On enfouit et puis un jour ou l'autre, ça va ressortir.
Oui, y compris donc pour une société. Ce n'est pas seulement la question du traumatisme, évidemment,
personnel,
le premier traumatisme.
C'est vrai aussi pour une institution.
C'est vrai pour
il y a un traumatisme collectif.
Alors, je ne sais pas si c'est un traumatisme ou si c'est... Oui, encore une fois, c'est tellement dur qu'on voudrait pouvoir passer à côté. Donc, pour moi, l'engagement d'aujourd'hui, c'est ça. Il faut continuer et c'est en continuant qu'on va découvrir aussi les pas suivants qu'il faut faire, dont un certain nombre de pas théologiques, de comprendre le caractère systémique lié à la religion. L'utilisation quand même des sacrements, l'utilisation de la parole de Dieu... L'utilisation de la place du prêtre ou du religieux, voire de la religieuse, ont été considérables dans les abus. Et ça, il faut qu'on comprenne pourquoi.
Sœur Véronique Magron, je le disais en introduction, vous avez eu, en plus de ce long chantier de la lutte contre les abus, un chantier qui n'est pas terminé, que vos successeurs vont devoir porter aussi. Il y a eu d'autres sujets qui ont occupé votre présidence de la COREF. Je pense au vieillissement des congrégations religieuses. Alors, je voudrais savoir quelle a été la difficulté en la matière du vieillissement des congrégations religieuses. Est-ce que c'est le fait que elles vieillissent et que peut-être certaines congrégations vont s'éteindre doucement? Ou est-ce que c'est le fait qu'elles n'aient pas anticipé, qu'elles n'aient pas prévu?
Non, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le fait de vieillir, le fait même pour un certain nombre d'ici quelques années de s'accomplir, comme on dit, hein, c'est-à-dire en fin de compte d'avoir terminé leur mission,
oui,
et de mourir, en soi,
c'est pas grave.
Enfin, il a jamais été dit que la vie religieuse aurait les paroles de la vie éternelle. La foi, j'espère, là, que la circulation de l'Évangile, mais pas telle ou telle institution, y compris la mienne, dont je n'ai aucune envie, évidemment, qu'elle meure, c'est pas ça la question. Mais donc, bien sûr, non, ce qui fait difficulté, c'est de ne pas c'est quand les congrégations en question n'ont pas anticipé.
Oui, c'est ça.
Et on peut avoir étonnamment une sorte de phénomène de déni, un peu comparable à ce qu'on parlait auparavant, ça n'est pas au nom des mêmes raisons, hein, mais au nom de la générosité, on peut toujours. Non, mais oui, bien sûr, on n'a plus beaucoup de force. Mais tu sais, on est généreuse, on va encore y arriver. On continue à tenir quoi au bout d'un moment, parfois dans des grands bâtiments, parfois ouais, avec des responsables d'instituts qui ont des âges très au-delà de canonique, qui n'en peuvent plus, mais qui par dévouement, par générosité, par don envers leurs frères ou leurs sœurs, et c'est magnifique cela bien sûr, mais continue, et du coup ça peut entretenir le déni.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut accompagner ces congrégations jusqu'à ce qu'elles acceptent de rejoindre une autre plus jeune, plus dynamique, qui correspond peut-être plus à l'élan du moment?
Alors non, ça, on évite. Non, c'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, pour prendre un terme cher aux soins palliatifs, c'est de mourir vivant. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, mais c'est pas parce qu'on est vieux, c'est pas parce qu'on n'a plus beaucoup de force qu'on n'est pas vivant. Mmh. Et c'est pas parce qu'on est vieux et qu'on n'a plus beaucoup de force qu'on n'est pas évangélique.
Et qu'est-ce qu'elles ont encore à transmettre, ces congrégations?
Elles ont tout à transmettre de l'humanité qu'elles ont vécue, de la foi qu'elles ont vécue et qu'elles vivent encore. Moi, je vois des petites communautés de sœurs, de frères, c'est plus rare parce qu'il y en a moins, mais par exemple dans des EHPAD. Mais vous savez, souvent c'est magnifique, ouais, parce qu'en fin de compte, ces femmes sont une présence d'humanité qui a souci des autres résidents. Alors qu'évidemment, elles sont percluses des mêmes douleurs, elles ont le même âge, les mêmes handicaps, mais il y a un souci d'autrui. De dire à l'aide-soignante, mais madame untel, elle n'est pas venue déjeuner.
Parce que même dans leur vieillesse, elles sont toutes données.
Elles sont données et dans leur vieillesse, elles ont toujours souci de l'autre parce que c'est ce qu'elles ont fait toute leur vie en communauté. Et ça, c'est de la transmission. Évidemment, ça peut paraître minuscule, ça l'est, mais c'est un poids d'humanité extraordinaire de rendre compte que jusqu'à la fin, vous pouvez être tourner vers l'autre. Ça, c'est magnifique. Et non pas replier, y compris quand le corps se replie. Et bien involontairement, on aimerait bien le contraire. Mais... et ça, c'est magnifique. Mais pour que ce soit possible, c'est-à-dire pour que cette humanité puisse être là, ça suppose qu'on puisse les soutenir pour prendre en charge toutes les questions matérielles, les questions administratives, les questions économiques, parce que si elles se tuent à encore prendre ça en charge, mais elles ne peuvent pas justement être une présence de vie religieuse pleinement incarnée auprès des autres. Vous voyez, donc notre but à la COREF, c'est cela, c'est en fin de compte de les soutenir pour qu'elles puissent, si je me permets, garder le cœur de leur métier, quoi.
S'agissant des congrégations qui sont peut-être un peu plus jeunes, masculines ou féminines, et qui sont présentes dans des diocèses, il y en a plein encore, un
oui,
peu
oui,
partout.
Heureusement.
Quelle est leur place et leur rôle dans la vie des diocèses, mais je pense surtout à la vie des paroisses. Comment on trouve un équilibre dans cette présence religieuse, dans une vie paroissiale? Et puis peut-être aussi la question, elle mérite d'être posée à un échelon différent, peut-être un peu au-dessus, en matière de gouvernance de l'Église, en fait. Quel est le rôle et le poids de la vie religieuse?
Il est tout petit, hein. Enfin, sociologiquement, il est devenu tout petit, mais ça, c'est pas un problème. Enfin, c'est une réalité. Moi, ça ne me dérange en rien. Enfin, deux choses peut-être. La première, c'est que je pense qu'au niveau local, enfin, au niveau de la vie des communautés, c'est vraiment la Pour moi, le témoignage de l'Évangile, c'est que, comment vous dire, ça rend l'Évangile proche. Parce que l'immense majorité des communautés religieuses, elles sont en proximité avec des femmes et des hommes au quotidien. Dans la vie de la paroisse, dans la vie d'un quartier, dans une association. Il y a une sorte de coude à coude. Et je crois que, pour moi, c'est un des plus beaux témoignages, ça, que cette. Et pour moi, c'est une magnifique fécondité parce que, comment dire, c'est une fécondité qui s'échappe par cette transmission d'humanité, quoi. C'est pas des grands discours, c'est rien de tout ça, mais c'est une sorte de coprésence, de solidarité ordinaire avec les gens. Pour moi, ça, c'est un côté bouleversant parce que il y a une force d'incarnation, oui, ordinaire, simple, qui ne se paye pas de mots, mais qui est dans le réel, quoi. Là aussi, je pense que les religieux-religieuses, quand même, on est habitué, parce qu'on l'est habitué dans nos congrégations, on fait face à la réalité telle qu'elle est, donc on ne va pas ni en être amer, ni je sais pas. Bon, c'est une réalité, donc on fait avec ce que nous sommes aujourd'hui. Et franchement, cette réalité peut être aujourd'hui, avec nos propres fragilités, très heureuse. Et je pense que pour moi, c'est ça qui compte, parce que tant qu'elle est évangélique,
oui,
c'est ça qui compte, c'est ça qui lui donne sa densité. C'est pas d'être 1000. Là où nous étions 10 000 ou de se retrouver à 100 là où nous étions 1000 ou franchement, mais l'Évangile est loin de tout ça et Jésus n'a pas converti toute la terre entière quand il s'est incarné, loin s'en faut, ni même à sa résurrection. Donc c'est pas ça la question. La question, c'est le poids d'Évangile dont réellement nous sommes témoins là où nous sommes. C'est ça notre obligation.
Sœur Véronique Magron, après 9 ans à la présidence de la COREF, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous avez sans doute plein de sollicitations dans tous les sens. On rappelle que vous êtes dominicaine, donc vous avez quand même une vie religieuse à mener avec vos sœurs. Mais qu'est-ce que vous allez... Quel chantier vous allez mener?
Je ne sais pas. Pour le moment, il se trouve que je suis toujours responsable de ma congrégation pour l'Europe et pour le Moyen-Orient. Et que peut-être je vais avoir un peu plus de temps déjà pour... visiter les sœurs, ce qui va leur faire tout chose d'un seul coup de me voir plus longtemps. Peut-être tout simplement pour le moment alléger un peu la barque et laisser les choses venir, ne pas prendre des décisions trop rapides. Et voilà, donc les sollicitations, c'est très très gentil, ça me touche beaucoup, vraiment, profondément.
Mais vous allez vous laisser le temps.
Mais je vais me laisser le temps de réfléchir, comment dire, de décanter un peu aussi, parce que ces années ont été très intenses. Encore une fois, au milieu de tous ces drames, elles auront été aussi magnifiques parce que j'ai rencontré des gens magnifiques partout, y compris chez tant et tant de victimes. J'ai rencontré des gens magnifiques. Donc cela, j'ai une dette immémoriale, vraiment, que je ne pourrai jamais solder et que je ne cherche pas d'ailleurs
à
solder. Donc je pense qu'il faut que je laisse un peu décanter. Voilà, et que je vais me laisser le temps de voir.
Merci beaucoup d'être venue au micro de Radio Présence, sœur Véronique Magron. Vous qui étiez donc à Lourdes cette semaine pour le rassemblement de la COREF, et donc c'est à cette occasion que votre succession va être élue.
Absolument.
Merci beaucoup.
Merci à vous.